Radio Vatican, France et Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mardi 8 juin, notamment par les nouvelles venant du Zimbabwe, d'Afrique du Sud et du Tchad notamment. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira notamment au Burkina Faso. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Les sœurs missionnaires filles du Calvaire ont facilité la reconstruction de l'hôpital de la mission de Chokongwe dans le diocèse de Wangé au Zimbabwe dans un nouvel emplacement après qu'il ait été laissé en ruine suite à la guerre de libération. Le rapport du lundi 7 juin indique que le diocèse catholique zimbabwéen, qui aurait été durement touché par les calamités de l'après-guerre, souffre des manques d'infrastructures de base, d'une éducation de qualité et d'installations de soins de santé. Les gens parcourent jusqu'à 60 km pour se rendre à Saint-Luc, le palais, afin d'y recevoir des soins médicaux. Les sœurs missionnaires, filles du Calvaire, avaient engagé la communauté locale dans des réunions sur les activités génératrices de revenus possibles. Au cours de l'une de ces réunions, les dirigeants locaux ont proposé la mise en place d'un centre de santé pour éviter aux habitants le long voyage vers Saint-Luc. Les évêques membres de la Conférence épiscopale d'Afrique australe ont répondu aux différentes préoccupations concernant le vaccin COVID-19, indiquant que certaines personnes et certains groupes avaient exprimé quelques inquiétudes concernant la sécurité et l'éthique des vaccins COVID-19. Ces préoccupations ont conduit un certain nombre de personnes à refuser ou à exprimer une réticence à accepter le vaccin. Tout d'abord, sur le temps relativement court pour la réalisation de ces vaccins, ils ont rassuré, se confiant aux scientifiques, que les essais étaient totalement solides sur le plan éthique et scientifique et l'homologation totalement approfondie. En outre, les évêques ont pris le contre-pied de l'opinion selon laquelle ce vaccin ferait partie du nouvel ordre mondial gouverné par le diable. Et maintenant, disent les évêques, beaucoup craignent qu'en prenant le vaccin, ils soient forcés de prendre le marque de la bête. Cette association du vaccin avec la marque de la bête est basée sur une interprétation erronée et fondamentaliste du livre de l'Apocalypse et ignore le contexte historique et biblique, proviennent-ils. La peur du vaccin COVID-19 a également été construite sur la crainte que le vaccin soit un stratagème des riches nations industrialisées de l'Ouest pour réduire la population mondiale par l'élimination de la race noire. Cette théorie est également sans fondement. En fait, les vaccins ne sont pas nouveaux. Les vaccins sont une réalité pour chacun d'entre nous depuis la naissance, y compris les vaccins contre la polio, la rougeole et bien d'autres, affirment les évêques. Pour dissiper la crainte que le vaccin ne modifie l'ADN des gens, ils affirment « Le vaccin COVID-19 n'est pas constitué d'éléments d'ADN et ne peut donc pas modifier notre code génétique ». La célébration de la liturgie dans l'Église catholique n'est pas un moment de spectacle, a mis en garde Mgr Ignatius Ayau Kaigama, archevêque d'Abuja au Nigeria, qui a appelé les fidèles et les membres du clergé à la retenue. Mgr Kaigama, qui présidait la célébration eucharistique marquant la solennité du corps et du sang du Christ dimanche 6 juin en la cathédrale Our Lady Queen of Nigeria de l'archidiocèse d'Abuja, a encouragé la participation au sacrement de pénitence. La célébration liturgique, a-t-il dit, n'est pas un showtime ou un pique-nique où les fidèles exhibent leur danse disco stylée ou les prédicateurs démontrent leur talent d'orateur accompagné de démonstrations acrobatiques pour impressionner les fidèles. Venez tôt pour la messe, soyez d'humeur silencieuse et priante, a déclaré Mgr Kaigama avant d'ajouter, chantez et dansez, mais sachez que nous sommes en présence du Seigneur. Il a enfin appelé à la retenue dans l'utilisation des téléphones portables pendant les célébrations liturgiques en disant, évitez l'utilisation incontrôlée des téléphones portables ou des appareils photo pendant la messe. L'église Famille de Dieu qui est à L'Aï au Tchad était en fête ce jour 5 juin 2021. Le Seigneur a fait don de 3 ouvriers pour sa moisson, abbé Emmanuel Ndingem, abbé David Garbien et abbé Esaïe Angoulumou. C'était au cours d'une célébration de messe présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Nicolas Nadjibab, en la cathédrale Sainte-Famille de L'Aï, compte rendu sur place.
Ils sont venus nombreux assister les nouveaux ouvriers du Seigneur. Ils, ce sont les parents, amis, fidèles, prêtres, religieux et religieuses du diocèse de L'Aï et des recoins du Tchad. Après le mot de circonstance du curé de la paroisse cathédrale de L'Aï, abbé Corentin Agdé, avec une insistance particulière sur le respect strict des mesures sanitaires, s'en est suivi la liturgie de la parole. Monseigneur Nicolas Nadjibab a insisté dans son homilie sur la vie et la mission du prêtre. Mission qui engage la vie du prêtre aux réalités de sa société, d'où la question politique. Pour le prélat, la politique ne peut pas être étrangère à la parole de Dieu, car, poursuit-il, la politique au sens strict du terme, c'est l'organisation de la cité, la recherche du bien-être de tous les citoyens. En d'autres termes, c'est ce que Dieu veut pour l'homme, c'est-à-dire le droit, la justice, l'égalité et la paix. Ensuite, s'adressant aux nouveaux prêtres, le pasteur propre les a invités à se sacrifier pour cette mission combien noble, dans la fidélité à Jésus-Christ, la disponibilité, le témoignage et la croissance dans la foi. Après le sacrement de l'ordre, les nouveaux prêtres ont rejoint leurs aînés dans le sacerdoce pour élever ensemble la coupe du Seigneur. Ils ont exprimé à la fin de la célébration leur reconnaissance envers l'assemblée, tout en invitant les jeunes à avancer au large avec le Seigneur. C'est par la triple bénédiction de l'ordinaire du lieu que cette célébration riche en couleurs a pris fin. Séverin Nigatolum pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés HCR condamna fermement le massacre qui a eu lieu au village de Solan dans le nord-est du Burkina Faso a indiqué mardi que quelques 3300 personnes ont été forcées de fuir après l'attaque djihadiste qui a causé ce massacre. Le HCR donne un bilan de 138 personnes tuées alors que des sources locales ont indiqué dimanche qu'il s'établissait à 160 morts lors de ce qui est l'attaque la plus meurtrière menée depuis 2015 dans le pays par des djihadistes présumés. Elle rappelle en outre que le massacre de Solan s'est produit seulement quelques semaines après que des hommes armés aient pris pour cible des véhicules du Haut Commissariat aux réfugiés et de ses partenaires sur la route reliant la ville de Dori au camp de Goudoubo où se trouvent 12 200 réfugiés et demandeurs d'asile maliens. Le ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement burkinabé, M. Ousseini Touboura, a indiqué au micro de Radio Vatican comment le gouvernement a pris ses dispositions pour faire face à la situation créée par le massacre de Solan. Il commence par parler des assaillants. On l'écoute.
Les assaillants sont considérés comme les groupes armés terroristes. Donc, on les identifie comme des groupes armés terroristes. Je ne sais pas si on peut davantage identifier plus qu'au-delà de ce fait. Et ce, depuis 2015, d'ailleurs, que notre pays voit sous les attaques terroristes. Je dois préciser aussi que les chiffres de personnes décédées dans cette attaque sont là. Je rappelle que c'est un village de la commune de Sonla qui se situe à 300 km de Ouagadougou. Le nombre de victimes décédées était de 132. Nous l'avons confirmé également hier à la suite d'une visite du gouvernement conduite par le Premier ministre sur le site du drame et sur la commune voisine qui a accueilli les blessés. Une quarantaine de blessés, dont aujourd'hui plus de 26, ont pu regagner leur domicile. Cependant, après les attaques terroristes, il se constate un déplacement de population, ce que nous appelons les personnes déplacées internes, donc des adultes, des enfants et des familles quittent donc la zone sous menace pour se réfugier dans des zones un peu plus paisibles. Et nous avons constaté que suite à cette attaque, entre 5000 et 7000 personnes ont dû se déplacer dans la commune immédiatement voisine et qui ont été prises en charge entièrement par le service de l'action humanitaire du gouvernement, mais aussi des partenaires techniques habituels tels que le CICR et bien d'autres ONG humanitaires.
Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour éviter que de telles attaques ne se reproduisent plus dans le futur?
Les mesures qui sont prises sont celles qui sont développées depuis maintenant plus de 4 ans sur ce front antiterroriste. C'est d'abord de faire en sorte que nos forces de défense et de sécurité, qu'elles soient intérieures ou militaires, soient plus équipées et plus à même de se déployer. Deuxièmement, la stratégie qui a été mise en œuvre, c'est de faire en sorte que nous associons aussi des jeunes ou des civils à la participation, à la sécurisation de leur village, parce qu'en fait, il est pratiquement impossible pour nos forces de défense de se déployer sur tous les villages. Le Burkina, c'est 8000 villages environ. Et puis, troisièmement, il y a aussi des actions non militaires qui consistent à faire en sorte que les jeunes, les citoyens burkinabés soient sensibilisés à ne pas s'enrôler dans les entreprises terroristes. Ensuite, travailler aussi sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Parce que l'une des conséquences dramatiques de ce terrorisme, c'est qu'il a éprouvé notre habituelle cohésion sociale ou de vivre ensemble, en fait. Donc voici les actions sur lesquelles le gouvernement travaille pour, en tout cas, minimiser au maximum les risques d'attaques terroristes. Naturellement, il est engagé aussi dans une action communautaire avec le Mali et le Niger, parce que vous n'ignorez pas, en fait, que nous sommes frontaliers de ces deux pays qui, jadis, connaissaient avant nous ces attaques terroristes. Il y a lieu donc avec eux de déployer une stratégie communautaire dans la zone des trois frontières et également avec l'appui de la communauté internationale, en l'occurrence les Nations Unies et d'autres pays engagés sur le territoire sahélien.
Et selon vous, Monsieur le Ministre, ces assaillants, ces terroristes sont à l'intérieur même du Burkina ou viennent aussi du dehors?
Il y a les deux hypothèses. Il est évident qu'il y a des Burkinabés dans cette entreprise terroriste. Il suffit simplement de se rappeler les premiers actes terroristes et les revendications qui ont été faites. Il y avait bien des Burkinabés dedans. C'est les enfants du pays qui connaissent aussi le terrain. Mais naturellement, ces entreprises terroristes sont internationales, vous le savez très bien. Donc il y a nécessairement d'autres. Ils prospèrent peut-être dans le Sahel, Burkinabé, sinon dans le Sahara. Donc il y a évidemment d'autres nationalités. L'organisation de ces entreprises sont connues également. Il y a les fantassins, mais il y a aussi tous ceux qui organisent, j'allais dire, la prospérité de cette vilaine entreprise.
Un mot de la fin, Monsieur le Ministre, pour faire connaître un peu davantage la situation au Burkina Faso et parler aussi, non seulement au Burkinabé, mais aussi à la communauté internationale qui vous suit à travers nos ondes.
Un mot de compassion et de dignité. Hein. Nous avons été à cela hier avec le Premier ministre. Nous avons trouvé là des populations sur place. Triste, c'est vrai, éprouvé, qui avaient presque des larmes aux yeux, mais qui sont restés dignes dans les messages que nous avons échangés. Puis un appel à l'État burkinabé de sécuriser les communes, c'est ce qu'ils nous ont dit, qu'ils souhaitaient que la sécurité revienne très vite afin qu'ils repartent pour reprendre leurs activités agro-pastorales ou d'exploitation d'or artisanal. Un autre mot de solidarité, de reconnaissance à tous ceux qui, depuis 2-3 jours, multiplient la chaîne de solidarité autour du Burkina. Ici, je pense au pape qui a fait un message d'amour à l'endroit du Burkina Faso, le secrétaire général des Nations Unies, les organisations interafricaines aussi, et en tout cas, toutes ces personnes qui se sont senties touchées par cette tragédie, le gouvernement leur dit merci et rappelle en tout cas son engagement à faire en sorte que ce type de tuerie ne se répète pas.
Monsieur Ousseni Touboura, ministre de la Communication, des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement burkinabé, propos recueillis par Jean-Pierre Bojoko. Restons dans cette sous-région et toujours au sujet de djihadistes. Le nord de Côte d'Ivoire, frontalier du Burkina Faso, a été de nouveau la cible lundi soir d'une attaque de djihadistes présumée au cours de laquelle un soldat ivoirien a été tué selon un bilan provisoire. Cette attaque est la troisième en un peu plus de 2 mois commise dans cette région frontalière du Burkina Faso en proie à la violence djihadiste depuis 2015. Les États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont dépêché leur émissaire mardi à Bamako où celui-ci devrait évaluer si les assurances données par le nouveau président de transition, le colonel Assimi Goïta, suffisent à satisfaire leurs exigences quant à un retour de civils au pouvoir après 2 coups d'État. Le médiateur de la CEDEAO dans la crise politique malienne, Goodluck Jonathan, était attendu en début d'après-midi à Bamako. Il arrive au lendemain de la prestation de serment qui parachève l'ascension du colonel Goïta d'officier inconnu à chef de l'État pendant une période transitoire censée ramener les civils à la direction de ce pays.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
L'organisation Médecins sans frontières et d'autres sources ont indiqué mardi que l'hôpital général de Boga, dans la province de l'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a été incendié. Lundi, de violents combats ont opposé l'armée régulière à des miliciens dans cette province, placée sous état de siège depuis le 6 mai. Selon Médecins sans frontières qui soutient l'hôpital, cette institution sanitaire a été la cible délibérée d'une attaque brutale le 7 juin. Toujours à propos de la République démocratique du Congo, la Belgique restituera le 21 juin une relique de Patrice Lumumba, héros congolais de la lutte anticoloniale, lors d'une cérémonie à Bruxelles présidée par le Premier ministre Alexander De Croo. L'Afrique du Sud a continué la lente reprise de son économie au premier trimestre 2021 avec une augmentation du produit intérieur brut de 1,1% après un plongeon de l'activité en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus, selon des statistiques officielles mardi.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur le développement avec Donatien Niembo.
Notre magazine sur les développements concerne la rencontre la semaine dernière à Londres du G7 Finance qui s'est engagé sur l'objectif d'un taux d'impôt minimal mondial sur les sociétés d'au moins 15%. Cet accord du groupe des sept grandes puissances a été qualifié d'historique et de moment de fierté dans une déclaration télévisée du chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances britannique Rishi Sunak, qui présidait la rencontre en tant que pays organisateur du G7. Le compromis des sept, à savoir Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis, Canada, en vue d'une réforme mondiale de la fiscalité adaptée à l'ère numérique, comme le décrit Rishi Sunak, envoie ainsi une impulsion importante pour la réunion du G20 qui se tiendra en juillet à Venise, en Italie, où un accord plus concret est attendu. Le texte final mentionne aussi l'engagement envers une meilleure répartition des droits d'imposer les bénéfices de grandes multinationales, principalement numériques et américaines, deuxième pilier de la réforme mise en avant par l'OCDE et incluant près de 140 pays. Le projet d'impôt minimal mondial ravivé par l'administration du président américain Joe Biden a ainsi reçu un soutien commun des grandes puissances européennes. Pour le G7, il s'agit de répondre aux stratégies d'évitement de l'impôt de certaines entreprises. Les États-Unis, comme nombre d'autres pays, cherchent de nouvelles ressources pour renflouer leurs finances publiques, durement éprouvées par la pandémie, les mesures de soutien ou plans de relance se chiffrant en centaines de milliards de dollars. Le gouvernement de Joe Biden avait d'abord parlé d'un taux minimum d'impôt sur les sociétés de 21% avant de se raviser pour 15% afin de rallier plus de suffrages. Face à l'opposition au projet déjà manifesté par l'Irlande, Chypre ou la Hongrie, dont les taux d'impôt de sociétés sont particulièrement bas, le pays du G7 compte sur un mouvement de négociation internationale qui pourrait amener le réfractaire à se rallier. D'après le texte, le pays du G7, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, États-Unis, Canada, Japon devraient aussi s'engager à maintenir des politiques de soutien à leurs économies, particulièrement au regard des nouveaux variants du coronavirus qui pourraient faire dérailler la reprise. Il réitère des promesses d'aide aux pays en développement, notamment dans l'obtention des vaccins contre la COVID-19. La lutte contre le changement climatique est aussi largement discutée au sein du G7 Finance avec notamment un débat sur les normes internationales en matière de transparence environnementale et marché du CO2 et la finance verte. Face à la fiscalité des multinationales dont la contribution au budget des États n'a cessé de reculer depuis 40 ans au bénéfice des paradis fiscaux, voici quelques éléments de réponse pour comprendre ce chantier très important et hautement technique censé mettre fin à l'optimisation fiscale de géants de l'économie mondiale. En 2017, l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE a été mandatée par le G20 pour lutter contre l'érosion à la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En clair, les stratégies d'optimisation qui permettent aux grandes entreprises d'échapper en grande partie à l'impôt. Les négociations ont été relancées par une proposition de l'administration Biden de fixer un taux de 15% minimum. Et aussi par la pandémie de COVID-19, les États cherchent de nouvelles recettes après avoir déployé des plans de relance pharaoniques. Le scénario rappelle celui de la crise de 2008 qui avait conduit les G20 à proclamer la fin du secret bancaire. L'OCDE avait alors mis en place un vaste système d'échange automatique de données, forçant les grandes fortunes et leurs banques à soumettre leurs comptes en Suisse et ailleurs à l'examen du fisc. En empêchant les entreprises de se retrancher derrière leur établissement fiscal dans tel ou tel pays particulièrement accueillant, déconnecté de leur activité réelle. La réforme compte deux piliers. Le pilier 1 vise à répartir équitablement entre les pays les droits à taxer les profits des multinationales, sachant qu'une entreprise comme la majeure pétrolière BP est présente dans 85 pays. Le pilier 2 consiste à instaurer un impôt mondial minimal afin de s'assurer que, quel que soit le lieu de son implantation, une multinationale ne paye pas moins.
Françoise Niamien présente la rubrique sur l'œcuménisme et le dialogue interreligieux.
Débutons notre rubrique consacrée à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux par cette consultation du Conseil œcuménique des Églises en République démocratique du Congo sur les risques et vulnérabilités liés au VIH auxquels sont confrontés les migrants. Dans le cadre d'une initiative d'inspiration religieuse du PEPFAR et de l'ONU-SIDA, le programme Initiative et plaidoyer œcuménique pour la lutte contre le VIH et le SIDA du Conseil œcuménique des Églises a organisé en partenariat avec Paul Institute une consultation sur les risques et vulnérabilités liés au VIH auxquels sont confrontés les migrants, les personnes déplacées et les réfugiés à Goma, en République démocratique du Congo. Il y avait une trentaine de participants, dont des membres du Conseil œcuménique des Églises et d'autres communautés religieuses, ainsi que des personnes vivant avec le VIH. Cette rencontre a été pour les participants une occasion de renforcer leur connaissance sur le VIH, la violence sexuelle et sexiste, les traumatismes, la stigmatisation et la discrimination, ainsi que sur les réponses pouvant être apportées à ces fléaux. Ils ont également appris davantage sur les manières de sensibiliser le public au dépistage du VIH et à l'accès au traitement dans les zones de conflit. Nous exhortons nos églises à continuer de sensibiliser et à inviter les personnes à s'accepter et à se sentir libres de se faire tester afin qu'elles puissent connaître leur statut sérologique et ainsi mieux se protéger et protéger les autres, a déclaré le père Gabriel Andji, représentant le vicaire du diocèse de Goma. De son côté, Kawa Njojo, évêque de l'église anglicane de Bounia et ancien élève de l'Institut œcuménique de Bossé du Conseil œcuménique des Églises, a déclaré que les églises et les chefs religieux avaient pris conscience que l'on peut faire beaucoup de choses dans l'unité et que l'on réalise davantage de choses en étant unis qu'en étant seul. C'est donc ensemble que l'on réussira à apporter des solutions efficaces aux personnes vulnérables. Madame Agnès Aboum, modératrice du comité central du Conseil œcuménique des Églises, a été interrogée sur la réunion du comité exécutif du Conseil œcuménique qui s'est tenue du 17 au 23 mai dernier. Le comité exécutif du Conseil œcuménique a exprimé son espoir pour l'avenir tout en abordant de multiples crises mondiales par des déclarations, des messages pastoraux et des appels à la prière. La transition vers une programmation et des prières en ligne en cours de la COVID-19 a représenté un défi pour le Conseil œcuménique des Églises et le reste du monde, a constaté Madame Aboum, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un lourd fardeau pour tous les membres de la famille œcuménique, alors que le Conseil œcuménique des Églises se prépare à sa 11e assemblée en Allemagne l'année prochaine. Un grand nombre d'Égyptiens, ainsi bien que de chrétiens coptes que musulmans, ont pu se rendre cette année au monastère marial de Jabal al-Tayy, dont le diocèse copte orthodoxe de Samalout, dans la province molle de Minya, pour participer à la semaine de festivités et de célébrations en mémoire de la naissance de la Vierge Marie. Tout en respectant les dispositions en vigueur pour lutter contre le coronavirus, précisément les mesures anti-Covid limitant la présence autour du sanctuaire d'échoppes et de bivouacs et de restaurants ont rendu cette année plus sobre et plus intense spirituellement la participation à ce geste de dévotion populaire. Le sanctuaire marial est également l'une des étapes les plus significatives du chemin de la Sainte Famille, l'itinéraire qui relie les lieux traversés selon les traditions millénaires par Marie, Joseph et l'enfant Jésus lors de leur séjour en Égypte où ils ont dû émigrer, quittant la Palestine pour échapper au mauvais dessein d'Hérode. La célébration organisée chaque année au sanctuaire en honneur de la naissance de la Vierge Marie commence à la fin du mois de mai et dure une semaine.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboileau qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.
Coulomb Shabbat.